Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'histoire du christianisme. Un cortège infini d'humanité, pleine de dévotion et de passion.
Curieuse, curieux.
Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Vendredi et samedi, le pape François doit se rendre au Caire, en Égypte. Une visite sous haute tension, moins d'un mois après les deux attentats revendiqués par Daesh et qui ont frappé la communauté coptes, faisant 45 morts et plus de 100 blessés. Qui sont-ils, ces coptes? D'où viennent-ils? Pourquoi, comme tant d'autres chrétiens d'Orient, sont-ils constamment persécutés? Pour comprendre, on a décidé d'accueillir Pierre Baron, notre consultant en histoire. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas.
C'est un plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois, au micro de la curiosité. Ces bombes, elles ont pour but de faire fuir ces coptes, Pierre?
Oui, clairement, c'est la valise ou le cercueil. La seule alternative que les terroristes de Daesh semblent vouloir imposer aux chrétiens d'Orient.
Ils ne vivent qu'en Égypte, les coptes?
Pour l'essentiel, oui. C'est leur pays natal. Mais on trouve aussi des exilés dans la région, à Chypre, au Liban ou à Malte. Il y a aussi une diaspora en Europe, dont un petit peu moins de 50 000, 45 000 coptes qui vivent en France.
Pierre Baron, la situation, est-ce qu'elle est désormais sous contrôle en Égypte? On est à 48 heures de la venue du pape dans un pays où l'état d'urgence a été déclaré pour 3 mois.
Hélas, non, Sidonie, pas encore. Au Caire, bon, on s'attend bien sûr que pour la visite pontificale, on ait un déploiement de forces de sécurité impressionnant, mais il y a encore une semaine, une attaque armée à la région, qui s'est pas produite à la région méridionale de la péninsule du Sinaï, à environ 500 km du Caire. Un policier a été tué, 3 autres ont été blessés. L'attentat a été revendiqué là aussi par l'État islamique qui depuis 4 ans, on le dit pas assez, mais est très bien implanté dans cette partie du pays, la péninsule du Sinaï.
Alors il y a la proximité du monastère Sainte-Catherine, c'est pas un hasard, c'est quoi? C'est un haut lieu du christianisme?
Ah oui, bien sûr, c'est un symbole. C'est l'un des plus anciens monastères au monde. Il a été construit il y a près de 1500 ans. Mmh. Il est toujours en activité. Il abrite aujourd'hui 20aine de moines. Mais aussi, et ça aussi, c'est pas du tout connu, une fabuleuse bibliothèque de manuscrits anciens. C'est la plus importante collection au monde, après celle du Vatican.
Et les groupes terroristes, ils s'en prennent aussi aux Coptes qui vivent aux alentours, en dehors de l'Égypte.
Oui, des centaines de familles de Coptes du Nord Sinaï ont dû fuir leur maison ces dernières semaines après les meurtres et les violences commises par les djihadistes sur plusieurs membres de la communauté. La menace, comme on l'a vu, s'est étendue au Caire et à Alexandrie. On l'a très peu rappelé, mais ces nouvelles attaques, celles d'il y a un mois, interviennent 4 mois après un attentat suicide revendiqué encore par Daesh et qui avait frappé le 11 décembre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est une splendeur et qui avait fait 29 morts.
Et c'est donc dans ce contexte que le pape François a décidé malgré tout de se rendre au Caire ce week-end. Pourquoi les coptes sont-ils visés? Est-ce que c'est une église, une communauté particulièrement importante en Égypte?
Ah oui, 8 millions de fidèles, un peu moins de 8% de la population totale égyptienne, qui fait 92 millions et quelques d'habitants. C'est la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Et c'est aussi l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde.
Une communauté qui remonte aux origines même du christianisme. Autrement dit, les Coptes seraient parmi les tout premiers chrétiens connus au monde, c'est
oui,
ça Pierre?
Exactement. C'est l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. Et pour cause, le christianisme est né et s'est d'abord développé dans la partie orientale de l'Empire romain, sur les rives de la Méditerranée, et de fait dans les régions, les territoires voisins, des lieux où Jésus a vécu, c'est une évidence. Donc, en Égypte, on sait qu'il y a eu des chrétiens tout de suite, dès le 1er siècle. C'est l'une des provinces les plus christianisées de ces premiers temps chrétiens. L'église copte va d'ailleurs très vite, hélas pour elle, subir les premières persécutions.
Alors elles arrivent quand, ces persécutions, et elles prennent quelle forme? Moi par exemple, j'ai l'image des chrétiens jetés au lion, est-ce que c'est ça?
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai dans la partie occidentale de l'Empire romain, c'est surtout vrai à Rome. Les persécutions, elles commencent vraiment, Thomas, à partir du 3e siècle. Donc ça, c'est énorme. Jésus avait 200 ans, 300 ans quasiment de
c'est
tranquillité.
Très rapide, quoi.
Oui, et en même temps, il y a un petit trou quand même. On peut voir des choses à la rue où il n'y a pas de persécution. Et pourquoi? Parce que pour les Romains, le christianisme est considéré comme une secte juive. Donc elle est parfaitement compatible avec la culture romaine. Donc il y a effectivement, si on renverse la bouteille, une relative tolérance pendant ces deux siècles. Attention, ce qui est vrai à Rome ne l'est pas pour les provinces orientales de l'Empire.
Alors comment ça va se traduire ? À quoi est-ce qu'on le voit ? Les interdits ne sont pas les mêmes, par exemple ?
Ah non, pas du tout. Au début du IVe siècle, l'empereur romain Dioclétien fait promulguer des édits qui va faire afficher, placarder, dans toutes les villes d'Orient. Et là, finito la tolérance. Les églises et les textes religieux chrétiens doivent être tous brûlés, les évêques sont emprisonnés, et les chrétiens qui occupent des fonctions, je dirais officielles, fonctions publiques, si j'ose dire, sont tous radiés. Les esclaves chrétiens ne peuvent plus être affranchis. Et enfin, la peine de mort est appliquée contre tous ceux qui refusent de sacrifier des chrétiens. Autrement dit, pour être clair, on va prendre une formule, mais on va dire que les chrétiens d'Orient vivent à ce moment-là leur premier cauchemar de l'histoire.
Et la répression, elle frappe surtout les chrétiens d'Occident, ou alors au contraire vraiment ceux d'Orient ?
Disons que les premières persécutions, Thomas, ça va durer une dizaine d'années. Et comme ces persécutions, elles reposent sur l'administration locale, elles reposent donc sur le bon vouloir de l'administration
d'un
locale.
D'un homme, quoi.
Voilà, souvent c'est ça. Par exemple, en Gaule, on sait très bien que le gouverneur de la Gaule n'a pas mis beaucoup d'ardeur à faire appliquer les décrets de Dioclétien. Moyennant quoi, on sait aussi qu'il n'y a pas eu de martyrs pendant toute la période de son règne, dans cette partie chez nous, si j'ose dire, dans ce qui sera chez nous. En revanche, il y a eu bien des milliers de victimes ailleurs et surtout dans notre Orient, dans cette partie orientale de l'Empire. En Égypte, ça c'est très important, l'église orthodoxe, enfin l'église copte, se considère d'ailleurs depuis le règne de Dioclétien comme l'église des martyrs, c'est comme ça qu'elle se nomme.
Alors que veut dire ce mot, copte ? Pourquoi les débuts du christianisme se sont faits dans les larmes et dans le sang ? La suite de cette histoire des chrétiens d'Orient, c'est dans un instant sur RTL.
Juste avant la visite du pape en Égypte au Caire, on vous raconte l'histoire des chrétiens d'Orient et parmi eux, ces Coptes qui vivent justement en Égypte, persécutés depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, puisque vous le savez, visés par de récents attentats revendiqués par Daesh. C'est notre consultant en histoire, Pierre Baron, qui nous aide à comprendre. Alors, vous le savez, Pierre, on aime bien trouver, comprendre, apprendre le sens et l'origine des mots. Ce mot, copte, d'où vient-il ?
C'est celui d'une langue. C'est la dernière langue de l'Égypte des pharaons qui est restée la langue liturgique de cette communauté chrétienne. Pour faire court et simple, l'Égypte est un pays arabe. La langue officielle de ses quelques 92 millions d'habitants, c'est l'arabe. Mais les textes importants, comme le Notre Père, le Jésus-Marie, etc., sont dits en copte. Donc une langue qui est, encore une fois, qui a plus de 2000 ans quasiment, un peu plus de 2000 ans.
Pierre Baron, vous nous l'avez expliqué, les persécutions contre les Coptes commencent vraiment à partir du 3e siècle en Égypte. Que se passe-t-il dans les territoires voisins ? Est-ce que là aussi les débuts du christianisme se sont faits dans les larmes et dans le sang ?
Oh oui, et ce bien avant que les premiers convertis n'arrivent à Rome. Par exemple, à Antioche, qui était alors la capitale de la province romaine de Syrie, c'est là que les disciples de Jésus, d'ailleurs, auraient pour la première fois reçu le nom de chrétien, c'est Antioche. Donc on est en Syrie. La Syrie antique a été, avec la Palestine et l'Égypte, dont on vient de parler, parmi les premières régions de cette région du Levant, on va dire, à se convertir au christianisme. Et c'est en, souvenez-vous, dans notre culture générale, c'est en cheminant à cheval, si ma mémoire est bonne, vers Damas, que Paul de Tarse, saint Paul pour les chrétiens, à la fois citoyen romain et juif, il a grave son cas celui-là, qui a reçu la vision du Christ et qui s'est converti. Ouais. Et donc on est à Damas, ouais. Donc on est en Syrie. Donc on est dans le berceau du christianisme.
Voilà, cette Syrie qui aujourd'hui est l'épicentre des combats pour lutter contre Daesh et contre son influence dans la région. À l'époque, c'est donc le berceau des chrétiens d'Orient.
Complètement. Et encore une fois, d'Antioche, du cœur de la Syrie, va naître la plupart des églises d'Orient actuel. Les églises qu'on retrouve au Liban, les Maronites, les Jacobites en Syrie. Beaucoup, beaucoup d'églises vont naître de cette capitale, de ce centre spirituel que va être Antioche. Voilà.
Alors le problème, Pierre Baron, c'est que si Jésus avait dit à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres », il aurait dû sûrement ajouter et tâcher de vous entendre.
Ah oui, ça, je vais vous dire, il aurait mieux fait de le préciser. Parce qu'alors très vite, il va y avoir des querelles théologiques qui vont diviser et déchirer les différentes églises chrétiennes.
Alors ça va être assez compliqué, vous allez prendre le temps de bien nous les expliquer parce que c'est passionnant.
Ah, bah écoutez, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail de ces débats passionnels et complexes. Disons pour simplifier il y a eu un certain nombre de conciles, c'est-à-dire de réunions importantes d'évêques, enfin de religieux supérieurs, on va dire. Et ces conciles vont aboutir à l'un d'entre eux qui va se passer à Calcédoine, un quartier chic d'Istanbul aujourd'hui, en 451, milieu du 5e siècle. Alors ces discussions pointues, interminables, portent sur la nature de Jésus. Donc, est-ce que Jésus a une nature humaine ? Est-ce qu'il a une nature divine ? Est-ce qu'il a une nature humaine et divine ? Plutôt divine qu'humaine, etc., etc., etc. Il y a aussi un autre point d'achoppement.
C'est la Trinité.
Entre chrétiens, c'est le 3 en 1.
Voilà, combien sont-ils ?
C'est le 3 en 1.
Le 3 en 1, ça, c'est quoi alors ? Vous pouvez être un peu moins byzantin, si j'ose dire ?
Oui, essayez d'être moins byzantin et un peu moins faire penser aux lessives, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais en fait... toute la question est de savoir si Dieu résulte d'une trinité. C'est exactement ce que vient de dire Sidonie.
Oui.
Donc, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ou si, au contraire, Dieu est unique dans son essence, comment dire ? Oui, voilà, j'ai trouvé le mot. Indéfectible. Mm-hmm. Les tenants de la trinité, c'est joli comme mot, indéfectible. Les tenants de la trinité seront, par exemple, les catholiques romains. On le sait bien quand on va à l'église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que bon nombre d'églises d'Orient vont pencher pour l'unitarisme, c'est-à-dire que Dieu n'a qu'une seule nature, en quelque sorte. Et pas seulement en Orient. Il y a beaucoup de gens très connus qui sont venus d'autres religions et qui, eux aussi, ont appartenu ou ont eu une foi unitarienne.
Vous pensez à qui, par exemple ?
Le grand théoricien de la gravitation universelle, le grand mathématicien Isaac Newton, était unitarien. Le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, était unitarien. Le grand, que dis-je le grand ? L'immense écrivain anglais Charles Dickens, ou encore un musicien, le compositeur hongrois Béla Bartok, eux aussi étaient unitariens. Comme quoi, vous voyez, l'Orient n'a pas le monopole des courants minoritaires.
Mais c'est pourtant l'Orient et ses chrétiens qui vont être aux premières loges lors d'un grand bouleversement historique du bassin méditerranéen. On vous raconte ça, les curieux, après les informations sur RTL.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on va observer des pinsons, des Galapagos, mais aussi des pigeons, des éléphants ou des poux avec le naturaliste Marc Giraud. On va voir comment l'observation de ces animaux et puis de la nature a permis à Charles Darwin d'inventer tout simplement sa théorie de l'évolution.
Très bonne soirée à l'écoute de RTL, 21h, 3 minutes, vous retrouvez Thomas et Sidonie.
Merci beaucoup, c'est Julien Cellier, on vous retrouve dans RTL Grand Soir tout à l'heure, ce sera à 22h avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco.
À
plus.
RTL, jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à vous les curieux, on est ravis de vous accueillir maintenant, si vous n'arrivez que maintenant, mais il n'y a pas de problème, il y a encore
une heure.
C'est un peu
tard, mais bon, il y a encore,
ouais, on va
y a
vous
encore
bouder
de bonnes choses.
Quelques secondes, allez hop,
micro
tout de suite.
C'est fini, on ne boude plus.
Non, mais ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'elle dure 2 heures, vous venez quand vous voulez, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis si vous avez raté le début de l'émission, vous savez qu'il y a un podcast après qu'on fabrique pour vous, qu'on retrouve sur RTL.fr.
Et ça va être super cette heure qui continue. Tout à l'heure, on part sur les traces de Charles Darwin avec le naturaliste de terrain Marc Giraud, l'un de nos sociétaires. Il est fan de Darwin, cet amoureux de la nature qui a inventé dans un 21e siècle encore obscurantiste par bien des aspects, une théorie de l'évolution révolutionnaire. C'est tout simplement l'un des textes les plus importants
au 19e siècle.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
21e, vous êtes dans
j'ai
le futur.
J'ai dit 21e, j'adore
c'est
trop
mignon.
Dans le futur. En tout cas, c'était
non, c'était nous, les années 18. L'histoire du futur maintenant,
c'était
je sais pas si vous êtes d'accord
1850,
les gars.
Ça c'est sûr, et en tout cas, c'était un des textes les plus importants de l'histoire de la science.
Et tout de suite, on continue de vous raconter le destin passionnant et souvent tragique des chrétiens d'Orient.
La curiosité est un vilain défaut.
La vie de Rana et de 70 000 chrétiens irakiens a basculé en quelques jours à peine.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'était à l'été 2014. En juin, le groupe terroriste État islamique envahit le nord de l'Irak et réussit à prendre le contrôle de Mossoul, deuxième ville du pays.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Tous se réfugient alors dans les villages de la plaine de Ninive, mais ce répit est de courte durée.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Le 6 août, Daesh lance une grande offensive. En 24 heures, les chrétiens de la région perdent tout.
On est bien entre curieux sur RTL.
On se passionne pour l'histoire des chrétiens d'Orient persécutés depuis le 3e siècle dans l'Empire romain, une oppression qui n'a guère cessé avec les dominations successives dans cette région du monde, le Moyen-Orient. Nous sommes avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Alors l'Orient et ses chrétiens vont être aux premières loges lors d'un grand bouleversement historique du bassin méditerranéen. Que va-t-il se passer ?
Ah bah écoutez, si on était dans la tectonique des plaques, je dirais que c'est un énorme séisme qui va se passer. C'est l'émergence de l'islam. Donc c'est après les Romains, à partir du 7e siècle. Bah, les chrétiens d'Orient, ils vont passer sous une autre domination, qui est celle de la domination musulmane. Bon, pour la plupart des églises orientales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette domination, elle n'est pas négative. Elle va même leur apporter du confort. Et même une amélioration globalement de leur situation, je parle des débuts. Parce qu'ils vont hériter d'un statut particulier. Les chrétiens d'Orient vont être ce qu'on appelle des dhimmi.
C'est quoi ?
Bah, dans le droit musulman, le dhimmi, c'est un nom musulman, donc en clair, il est juif ou chrétien. Et il est lié à un État musulman par un pacte de protection. L'État le protège. En clair, pour faire simple, faut payer, quoi. C'est le paiement d'un impôt particulier qui va vous assurer, vous garantir votre liberté de culte. Vous voulez aller à l'église, vous voulez aller à la synagogue, vous voulez être tranquille, vous êtes dhimmi, vous payez votre impôt et vous pratiquez la religion que vous voulez.
Bah dis donc, Pierre Baron, ça revient cher quand même d'obtenir le droit de croire en qui on veut.
Ben pas tant que ça. En fait, les musulmans n'ont pas été plus excessifs que n'ont été les romains. Si je fais la synthèse des lectures que j'ai faites pour préparer l'émission, on s'aperçoit que la pression fiscale, elle n'était pas plus forte avec les musulmans que sous la domination des empereurs des Césars. Donc on paye, apparemment on est tranquille. J'ai bien apparemment. Il y a quand même une augmentation, évidemment, des conversions à l'islam. Mais il y a très peu, si on regarde bien dans les chiffres, il y a très peu de conversions forcées dans les premiers siècles des chrétiens à l'islam. Donc, on ne les oblige pas. Mmh. C'est spontanément. Et parfois même, c'est assez étonnant, surtout quand on voit notre actualité, la cohabitation, elle se fait sur le même lieu de prière.
C'est le cas en Syrie, par exemple, puisqu'on parle d'actualité.
Damas devient, en 661, la capitale du premier empire arabe. D'accord ? Eh bien, la grande capitale byzantine, avant c'était une capitale byzantine à Damas, eh ben, elle est partagée à ce moment-là avec les musulmans qui viennent prier aux côtés des chrétiens. Tout le monde cohabite. Des chrétiens qui vont d'ailleurs participer activement et pleinement à l'administration de l'Empire. Je fais une parenthèse pour dire que c'était vrai à ce moment-là, comme ça a été vrai très longtemps après. Si vous vous souvenez de la guerre du Golfe et de l'Irak, la communauté chrétienne qui vivait en Irak était très bien représentée, avec des gens comme Tariq Aziz, ministre des Affaires étrangères. Ça prouve qu'il y avait encore une élite chrétienne en Irak il n'y a même pas 30 ans.
Mais cette concorde entre les croyants que vous nous racontez, Pierre Baron, elle ne va pas durer longtemps. Et le facteur de désordre va venir des chrétiens eux-mêmes avec les croisades. Comment ça va se passer ?
Bah, on se rappelle très vite que le pape Urbain II avait dit à la fin du XIe siècle qu'il fallait venir en aide aux chrétiens d'Orient qui étaient officiellement persécutés par les Turcs. Bon, du coup, qu'est-ce que vont faire les chrétiens d'Orient ? Ben, ils vont être pris entre deux feux. Ils vont essayer d'aider les chevaliers latins, ils vont essayer de leur indiquer le chemin, ils vont essayer de leur rendre quelques services, mais en même temps, ils vont tomber au minimum sous la suspicion des musulmans, qui se disent que c'est un peu la cinquième colonne et l'ennemi intérieur, parce que pour eux, ils sont déjà assimilés à l'Occident. Donc, la plupart du temps, Sidonie, qu'est-ce que font les musulmans ? Ils les chassent des cités parce qu'ils ont peur que les chrétiens ne donnent des renseignements à l'ennemi, c'est-à-dire les chevaliers occidentaux.
Mais déjà, il y a une forme d'ostracisme.
Oui, ça commence déjà, ouais. C'est très clair. Et la cohabitation entre eux, parce qu'on le sait, bon, les chrétiens de latins vont gagner, et donc chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident vont cohabiter sans le moindre problème. Ça va être de nouveau, on va reconstruire les églises, les chrétiens d'Orient vont vivre en pleine prospérité. Et rebelote, si j'ose dire, Constantinople va tomber en 1453, les Turcs vont gagner, et avec cette victoire, c'est la fin définitive de l'Empire romain-byzantin. Entre parenthèses, l'Empire romain-byzantin, il a duré plus de 600 ans après celui de Rome. Tout le monde nous parle de Rome, et en fait, Byzance, ça dure quasiment 700 ans de plus.
Et sous cette domination donc turque, on est dans la nouvelle phase, là, ça se passe comment pour les chrétiens d'Orient ?
Dans un premier temps, les Turcs, pas bêtes, ils ont vu ce qui fonctionnait. Et ce qui fonctionne, c'est de payer. Donc, ils vont eux aussi appliquer le système du dhimmi, et eux aussi vont demander aux chrétiens de payer pour être libres de pratiquer leur culte. Dans un premier temps, aucun souci, ça va se passer tranquillement, et puis petit à petit, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions parce qu'il va y avoir des regains de nationalisme plus on se rapproche du XXe siècle. Il va y avoir un certain nombre de conflits dans cette région. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais vous les avez en tête. La guerre entre Israël et les pays arabes, les guerres du Golfe, le nationalisme dont je viens de parler, qui fait que toutes ces secousses vont mettre les chrétiens sous tension parce qu'encore une fois, assimilés à l'Ouest, assimilés à Rome, et donc assimilés à l'ennemi.
Donc ils deviennent des citoyens de seconde zone, les chrétiens ?
Ah oui, D'abord, il y a un certain nombre d'emplois Sidonie qui leur est interdit, notamment, encore une fois, dans l'administration, chez les fonctionnaires. C'est symbolique, mais ça compte, ces choses-là, je pense. Alors que pendant des siècles, ça avait été le cas, les carillons des églises sont interdits, ne peuvent plus sonner, on n'a plus le droit. La cohabitation dont on parlait tout à l'heure, elle n'existe plus. Et les églises, elles sont retapées, rénovées, entretenues uniquement sur les fonds des chrétiens. Et pas toujours très bien.
Alors, pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut qu'on avance dans le temps, Pierre Baron, les Occidentaux vont se répartir les pays jusque-là sous domination ottomane. Comment ça va se passer et qu'est-ce que ça va provoquer pour les chrétiens d'Orient ?
Ça se passe en plein milieu de la guerre, en mai 1916, et c'est un accord secret, enfin pendant un temps il a été secret, entre la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. En gros, c'est le partage du Proche-Orient en plusieurs zones d'influence au profit de la France et de l'Angleterre. La France, pour faire simple, elle se voit attribuer l'administration directe de ce qu'est aujourd'hui le Liban, le nord de la Syrie et la province de Mossoul. Les Britanniques, eux, héritent du Koweït, de l'Irak, du sud de la Syrie, de la Jordanie et de la future Palestine. Ça veut dire que cette découpe, elle se fait aux dépens des promesses que Français et surtout Anglais avaient fait aux Arabes, ce qui va poser d'énormes problèmes par la suite.
Avec des conséquences pour les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire des persécutions ?
Oui, bien sûr. Ça va repartir, et plutôt que des persécutions, je préférerais dire que Thomas, c'est plutôt de l'ostracisme, encore une fois. C'est plutôt, comment dirais-je, une façon d'être écarté d'un certain nombre d'emplois, encore une fois, d'un certain nombre de salaires, d'un certain nombre de responsabilités, plutôt que des persécutions. Les persécutions, elles peuvent arriver, évidemment. On ne va pas oublier de parler ici, même en trois secondes, du génocide arménien, c'est même des chrétiens, par les Turcs en 1915. Ça, c'est un vrai massacre. Génocide, selon la plupart des historiens. Mais c'est parsemé plutôt d'ostracisme, discrimination. Sauf avec le retour, ça c'est la dernière vague, ce que j'appellerais d'un fanatisme religieux, en l'occurrence islamiste intégriste, qui fait que ces persécutions plus ces discriminations, on revient non plus aux persécutions, mais on revient à une tentative d'extermination ou d'assassinat de masse.
Pierre Baron, c'est un peu brut comme question, mais c'est la question qu'on se pose en vous écoutant. Et pour conclure, les chrétiens d'Orient, est-ce qu'ils sont appelés à disparaître ?
Il faut se poser la question. Au début du XXe siècle, au Moyen-Orient, un habitant sur quatre était chrétien. Aujourd'hui, un siècle plus tard, c'est moins de 5% de la population. Et on pense qu'ils seront moins de la moitié, c'est-à-dire moins de la moitié de ces 5%. Dans les trois ans à venir, en 2020. Donc oui, effectivement, la survie des chrétiens d'Orient, c'est une question qui est posée à terme. Et la réponse à cette question, il faut être honnête, elle dépend en très grande partie de la façon dont les Occidentaux, c'est-à-dire à nous, de façon générale, on va se comporter envers ses lointains cousins. Et voilà, c'est un peu plus que ses cousins, d'ailleurs. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on réduise les chrétiens d'Orient au fait d'être chrétien. Je pense qu'un individu ne peut jamais être réduit uniquement à sa religion. Les chrétiens d'Orient sont au moins autant orientaux que chrétiens. Ils vivent dans une culture arabe ou musulmane. Ils ont des traditions ou une mémoire qui est au moins autant, beaucoup plus orientale qu'occidentale. Et réduire un individu, quelle que soit l'époque ou quel que soit le lieu, à sa seule religion, pour un historien, me paraît être une erreur lourde de sens.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre Baron, d'avoir fait la lumière sur toutes nos questions. Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.